Bonjour à tous, nous sommes en direct de Radio 100% Lycéens. Nous allons vous parler de l'Antiquité et plus particulièrement de l'Antiquité grecque. Laissons la parole à Thibaut et Clément qui vont nous faire un petit cours d'histoire.
Dis, tu sais pourquoi on nomme certains siècles par le nom de certains dirigeants, comme Louis XIV ou encore Auguste par exemple?
Ou comme le siècle de Périclès.
Oui aussi. D'ailleurs, pourquoi on l'a nommé comme ça? Tu sais qui c'était Périclès?
Moi, oui, c'était un grand homme dans la Grèce antique. Il a vécu pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes.
Athènes, ça me dit quelque chose. Ce n'est pas la fameuse cité grecque à avoir mis en place une démocratie.
Si, c'est ça. Figure-toi que Périclès est un personnage important pour cette cité.
Ah bon? Qu'a-t-il fait?
Il faut d'abord savoir qu'il est né dans une famille aisée. Son père était dans l'armée et sa mère venait d'une famille importante.
C'est bien beau tout ça, mais ça change quoi?
Ça change qu'il reçoit une très bonne éducation, et c'est comme ça qu'il devient un bon orateur et un bon stratège.
Un orateur? Je vois ce que c'est, mais un stratège, tu peux m'expliquer?
Un stratège, c'est quelqu'un qui dirige de grandes opérations militaires.
C'est compris. Et après, qu'est-ce qu'il a fait?
Je vais te dire comment il a permis à Athènes de rayonner. Il faut savoir que cette cité était très forte militairement. Elle a gagné deux batailles très importantes contre les Perses. La première est celle de Marathon, et la deuxième est celle de Salamine.
Marathon. C'est pas la fameuse histoire où l'on raconte que quelqu'un aurait couru 42 km, ce qui a donné le nom à nos courses.
Si, c'est ça. Tu t'y connais bien, toi aussi.
Merci. Revenons à notre histoire. Dis-moi ce qui s'est passé dans ces batailles.
La première bataille s'est déroulée sur la terre, mais la seconde était sur la mer. Les Grecs ont gagné dans les deux cas.
D'accord, mais ça ne répond pas à la question.
Je vais y venir. Suite à ces guerres, Athènes et d'autres cités grecques forment la Ligue de Délos. C'est une alliance militaire qui a pour but d'empêcher le retour des Perses.
Et de cette alliance, il n'y a pas un trésor qui est déposé à Athènes?
Si, il y en a un.
Et c'est grâce à ça que Périclès peut financer la construction de plusieurs monuments, comme le Parthénon, le temple d'Athéna ou encore les longs murs, qui permettent une bonne communication entre le port du Pirée et Athènes.
Exactement. Grâce à ce rayon de lumière, Athènes rayonne partout en Grèce. Quand Périclès monte au pouvoir, il renforce la puissance maritime.
Grâce au trésor de la Ligue de Délos.
Oui, c'est ça, grâce à lui. La cité est embellie et Périclès se prépare à affronter Sparte, qui sera plus tard la guerre du Péloponnèse.
C'est qui Sparte? Une autre cité grecque?
C'est ça. Sparte est très puissante et fait aussi partie d'une alliance, qui est la Ligue du Péloponnèse.
Et comment s'est passée cette guerre?
Les Athéniens utilisent leur puissance maritime, tandis que Sparte utilise l'armée de terre. Malgré la puissance athénienne, il y a un gros problème.
Lequel?
La peste. Elle touche la ville et Périclès en meurt après 10 ans de guerre. Puis un traité est signé.
Et c'est tout?
Non. Après, la guerre reprend.
Il n'avait pas signé un traité?
Si, mais il a été rompu.
Bon. Et qui est le gagnant cette fois?
Cette fois, c'est Sparte. Athènes, elle, se rend, affaiblie à la fin du 5e siècle.
Et pourtant, pendant siècles, l'art grec était à son apogée.
C'est vrai. C'est grâce à Périclès qui enrichissait la cité. Il y a eu aussi de grands hommes, comme Socrate, qui était un philosophe, ou encore Alcamène, qui était un grand sculpteur, qui, lui aussi, a fait la statue d'Aphrodite accoudée, qui est au musée du Louvre.
Quel siècle fabuleux! Merci de me raconter tout ça.
Un petit instant musique avec le titre du groupe Jungle, Casio. Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now.
I know you feel it. just like a Casio. Breaking it up, I see you can let it go. We are nerdy, that's now original. Cynical, our alibi.
Nous ne changeons pas d'époque, mais de sujet avec Clara et Lucille qui vont nous parler des esclaves dans la Grèce antique.
J'ai regardé une émission sur la vie à Athènes hier. C'était horrible.
Pourquoi ? Ils ne vivaient pas si mal, si. En plus, ils étaient en démocratie.
Démocratie, c'est vite dit. Tout dépendait du statut social. Les citoyens, ça allait, mais il y avait des esclaves.
Oui, je sais, mais on m'a dit qu'ils n'étaient pas maltraités, ou rarement, et qu'ils pouvaient être affranchis.
Peut-être dans certaines familles, mais il n'empêche qu'ils étaient considérés comme des outils qu'on achetait et qu'ils faisaient toutes les tâches désagréables de la maison, comme aller chercher de l'eau, faire le ménage, la lessive, la cuisine, accueillir les invités, et j'en passe. Et puis, ça ne te choque pas des esclaves en démocratie ?
Le contexte n'était pas le même. On ne peut pas vraiment comparer avec notre regard de personnes du XXIe siècle. Mais sinon, il y en avait beaucoup des esclaves ?
Au moins un esclave par famille assez riche pour s'en acheter, et jusqu'à 4 au temps où les esclaves étaient les plus nombreux.
Mais elles venaient d'où toutes ces personnes ?
Capturées par des pirates ou des brigands, butins de guerre ou encore enfants abandonnés, recueillis pour être esclaves. Il y a eu aussi une époque où l'on pouvait devenir esclave car on ne payait pas nos dettes.
Mais ça veut dire que n'importe qui pouvait devenir esclave, non ? Car n'importe qui pouvait être capturé par des brigands.
Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça.
Enfin, un truc que je connais et pas toi.
Ne fais pas la maline. Connais-tu les conditions de vie de ces pauvres esclaves ?
Non, mais je sens que tu vas me le dire.
Eh bien, certains considéraient leurs esclaves au mieux comme des animaux. Pour eux, un esclave devait être puni s'il désobéissait et récompensé s'il faisait quelque chose de bien. Il y en avait d'autres, plus humains selon moi, qui disaient de traiter les esclaves comme des enfants, c'est-à-dire de leur donner des ordres, mais aussi des recommandations et des conseils. Mais qu'ils soient tous les rangs ou pas, les esclaves ne vivaient que pour servir et travailler.
Et tous les esclaves étaient traités comme ça, ou il y avait des différences entre les esclaves de la campagne, de la ville ?
Ceux de la ville étaient nettement mieux traités. Ils pouvaient, si leur maître les y autorisait, travailler pour eux-mêmes et gagner leur propre argent, même si une partie revenait à ceux à qui l'esclave appartenait. Ils pouvaient même, grâce à cet argent, payer leur affranchissement. Tandis que les esclaves qui travaillaient en milieu rural ne pouvaient pas du tout faire ça, et avaient des conditions de vie nettement plus dures. Ils travaillaient beaucoup plus, et d'un travail plus dur physiquement. Et je ne te parle même pas des esclaves dans les mines. C'était le pire sort possible pour un esclave dans les mines comme celle de l'Orion. Et tu sais que même entre les esclaves, il y avait une hiérarchie ?
C'est-à-dire que certains esclaves étaient placés plus haut que d'autres ?
Oui, on a des exemples d'esclaves qui flagellaient d'autres esclaves. Et après, on parle de démocratie.
Oui, c'était horrible. Mais j'y pense. Est-ce qu'un maître pouvait tuer son esclave comme ça, sans réprimande ?
Théoriquement, oui. Mais dis-toi que l'esclave était un objet, oui, mais un objet de valeur. Et donc, on prend soin de ces objets de valeur. Ainsi, quand un esclave était maltraité par un autre que son maître, celui-ci pouvait demander de l'argent pour dommages et intérêts. De même, quand c'est un maître qui maltraitait son esclave, un autre citoyen pouvait demander réparation. Donc, il en va de même pour la mort. Celui qui tuait un esclave était condamné à l'exil pour homicide involontaire.
Ah oui, donc un maître n'avait pas vraiment tous les droits. J'avais une autre question qui m'est venue quand tu as parlé d'affranchissement. Qu'est-ce que c'est exactement ? J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais vraiment compris.
C'est plutôt simple, en fait. L'affranchissement est le fait de libérer son esclave, partiellement ou totalement.
Et on pouvait libérer partiellement son esclave ?
Oui, et à ce moment-là, l'esclave garde des devoirs envers son ancien maître.
Et qui est-ce qui choisit le contrat ?
Le maître, évidemment. Le contrat d'affranchissement le plus contraignant était celui de la paramonnaie, où le maître garde quasiment tous les droits sur l'esclave jusqu'à sa mort. Mais même totalement libéré, un esclave gardait des obligations envers son ancienne maison, comme y aller 3 fois dans la semaine, n'être jamais plus riche, etc.
Ah oui, donc ce n'est pas vraiment la liberté complète, loin de là. Et comment pouvait-on être affranchi ?
Le plus souvent par des affranchissements collectifs. À la mort du maître, celui-ci libère tous ses esclaves. Mais il est arrivé que des esclaves payent leur libération. Et puis, de toute façon, l'esclave, même libre, devait payer une somme, dont une partie était versée à des temples, car l'esclave était maintenant considéré libre par la grâce des dieux, ou à des magistrats qui actaient la libération.
C'est compliqué tout ça. Mais au moins, ce soir, je me coucherai moins bête. En parlant de Grèce...
Nous retrouvons Lucille et Clara après les Beatles pour un petit point mythologie.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Vous écoutez Radio 100% Lycéen. Maintenant, nous poursuivons avec Sisyphe et Bellerophon. Bellerophon.
Tu fais ta madame je sais tout, Lucille, mais je suis persuadée que je connais une histoire que tu ne connais pas.
Impossible, je suis incollable sur tout ce qui se rapporte à la Grèce antique.
C'est ça, ouais. Alors, je suppose que tu connais Sisyphe ?
Bien sûr, tu me prends pour qui ? C'est l'homme qui pousse une pierre à l'infini aux enfers.
Je n'en attendais pas moins de toi. Mais sais-tu comment il en est arrivé là ?
Non, je ne crois pas.
Ah, voilà.
Plutôt que de te vanter, pourquoi tu ne m'expliquerais pas ?
Oui, une seconde, laisse-moi savourer ma victoire. Enfin bon, si tu y tiens vraiment, je vais te raconter. C'est l'histoire de Sisyphe, l'homme qui avait voulu défier la mort.
Tu ne peux pas aller plus vite, on en a pour 2 heures à ce rythme-là.
Mais quel rabat-joie ! Enfin, Sisyphe était un berger grec de Corinthe. Un jour, en échange d'une source intarissable, il révéla à un des dieux fleuves, Asopos, où se trouvait sa fille, retenue par Zeus, qui avait pris la forme d'un aigle. Il le fit fuir et put récupérer sa fille.
Ça ne me dit pas pourquoi il a été envoyé au Tartare, tout ça.
J'y viens. Zeus était très en colère et il envoya Thanatos, le dieu de la mort, le punir. Mais Sisyphe était intelligent. Lorsque le dieu vint le chercher, il lui proposa de lui montrer une de ses inventions, les menottes. Il l'emprisonna ainsi et il put survivre.
Ah ouais, il est super intelligent.
Et c'est pas fini. Zeus a fini par se rendre compte que plus personne ne mourait et il envoya Arès libérer Thanatos et amener Sisyphe aux enfers.
Dommage pour lui, ça n'aura pas marché.
Mais arrête de me couper.
Oh, ça va, désolé.
Donc, je disais... Ah oui, Arès emmène Sisyphe aux enfers. Sauf que Sisyphe était malin. Il avait convaincu sa femme de ne pas faire les funérailles traditionnelles. Mais sans le drachme qu'on mettait dans la bouche des morts, il ne pouvait pas passer le Styx, le fleuve des morts. Alors Sisyphe a été autorisé à retourner sur Terre pour arranger ça. Et bien sûr, il n'est pas retourné aux enfers après ça, comme il l'avait promis. Selon la légende, Hermès ou Thanatos lui-même a été obligé de venir le chercher de force.
Et c'est là qu'il a reçu sa punition, celle de pousser son rocher à l'infini.
Oui, voilà. Enfin, c'est un peu plus développé que ça. Hadès l'a condamné à essayer de pousser un rocher en haut d'une montagne. Mais à chaque fois qu'il arrive à son point d'arrivée, le rocher roule et tombe sur l'autre flanc.
C'est ce que je dis, c'est infini.
Oui, tu as raison.
Il y avait donc bien une légende que je ne connaissais pas. Malgré tout, je connais plus de choses que toi. Par exemple, je m'étais renseignée sur son petit-fils, Bellérophon.
J'espère que lui, au moins, a eu une fin heureuse.
Pas exactement.
Raconte quand même.
Bellérophon se nommait à l'origine Hipponoos. C'est lors d'une partie de chasse qu'il a perdu son nom. Lui et son frère, Bellérophon, étaient dans une forêt quand soudain, Hipponoos vit un mouvement. Il prépara sa flèche, persuadé qu'il allait enfin tuer cette magnifique biche, et tira.
Je suis sûre que c'est son frère sur qui il a tiré.
Effectivement, un cri humain retentit. Hipponoos, saisi d'horreur, se précipita vers le cri et vit son frère, mort.
Ah oui, ils rigolent pas les Grecs avec leurs légendes.
La première chose qui traversa l'esprit d'Hipponoos fut qu'il s'était attiré la colère des dieux et qu'il allait devoir partir en exil, loin de sa ville.
Attends, la première chose qu'il traversa, c'était pas la douleur ou la culpabilité d'avoir quand même tué son frère ?
Non, pas que je sache.
C'est étrange.
Enfin bref. Donc Hipponoos, maintenant appelé Bellérophon, à Saint-Saint de Bellérophon, quitta sa ville natale, Éphyre.
Et il va où ?
Il est accueilli par le roi de Tirynthe, Proétos, qui lui fait grand honneur en organisant des buffets, des fêtes, etc.
Mais il sait pas que Bellérophon est un meurtrier ?
Si, mais ça n'a pas l'air de le gêner.
D'accord, pourquoi pas ? Continue.
Le problème est Sthébéné, la femme du roi, qui tombe folle amoureuse de Bellérophon et le rejoint un soir dans son lit. Paniqué, Bellérophon repousse ses avances, par respect pour son hôte et par pudeur.
Je suis sûre que ça n'a pas plu à la reine.
Non, le lendemain, elle est allée voir son mari et lui a dit que Bellérophon l'avait violée.
Quelle sale peste !
Proétos est donc face à un dilemme. Il veut laver l'affront fait à sa femme en tuant Bellérophon, mais les lois de l'hospitalité le lui interdisent. Alors, une idée germe dans son esprit. Il va envoyer Bellérophon chez le roi de Lycie avec une tablette disant de tuer le porteur.
Donc, il envoie Bellérophon avec un message disant de le tuer.
Exactement. Bellérophon va donc en Lycie et est aussi très bien reçu. Ce n'est qu'au 10e jour que le roi prend connaissance du message. Il est alors pris dans le même dilemme que Proétos. Comment tuer quelqu'un qu'on a accueilli chez soi ? En lui faisant faire des travaux mortels ?
Oui, ça me revient. Je me souviens de cette histoire. Il va devoir aller tuer la chimère, c'est ça ?
Oui, tu veux raconter la suite ?
Oui. Donc, si je me souviens bien, il va tuer la chimère grâce à Pégase, le cheval divin qu'il a réussi à apprivoiser avec une bride divine qu'Athéna lui avait apportée. Loin de le remercier, le roi va lui demander d'éradiquer les Solymes, peuple guerrier des montagnes.
Et il va y arriver. Et après, c'est fini les combats, non ?
Non, pas du tout. Il va aller combattre, toujours pour le compte du roi de Lycie, les Amazones, que tu connais forcément.
Oui, bien sûr.
Et enfin, en désespoir de cause, le roi va lui tendre une embuscade, mais Bellérophon va tuer tous ses soldats.
Il a la faveur des dieux, celui-là.
Oui, c'est le cas de le dire.
Et donc le roi, il va faire quoi ?
Lui donner des terres et la main de sa fille.
Donc on est passé de « je veux te tuer » à « tiens, épouse ma fille ».
Oui, ils sont un peu indécis, ces Grecs. Par contre, je ne me rappelle pas de la suite.
Oh, elle n'est pas longue, la suite. En fait, Bellérophon va mourir d'orgueil.
C'est donc bien ce que tu disais, une fin triste.
Oui, et je vais te l'expliquer en détail. Bellérophon va vouloir se venger de Sténébé. Pour ça, il va faire semblant de tomber sous son charme, l'emmener faire une balade sur Pégase.
Trop bien.
Et la pousser du cheval en vol.
Moins bien.
Enivré par sa puissance, il va tenter de monter jusqu'à l'Olympe. Mais Zeus, furieux, va envoyer un paon piquer les fesses de Pégase qui va ruer et faire tomber Bellérophon. Celui-ci va tomber dans un buisson et devenir aveugle, après avoir vu la mort de son fils par les solimes survivants et de sa fille par maladie soudaine voulue par Artémis.
Ah oui, pas super joyeuse la fin.
Un voyage décidément bien intéressant qui nous laisse sur notre faim. Merci de nous avoir écoutés. Pour finir, un peu de musique.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil.
Radio 100% lycéen.
Radio 100% lycéen, la radio des jeunes de la région Centre-Val de Loire, en direct, en audio et en vidéo sur yeps.fr.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips.
Bonjour à tous, vous êtes sur la radio 100% lycéen, basée au lycée Charles Péguy. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission et elle sera co-animée par Alice. Bonjour Alice. Estelle, bonjour Estelle.
Bonjour.
Et moi, Noah. Du coup, voilà, nous sommes tous des élèves de la classe d'italien LV3. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir trois élèves qui fréquentent notre établissement. Donc nous avons Mariaka, là. Bonjour Mariaka.
Bonjour.
Nous avons Melek, bonjour. Et nous avons Abderrahman, bonjour Abderrahman.
Bonjour.
Donc l'interview sera en italien, mais tout d'abord, nous allons vous faire écouter une chanson italienne qui est Venta Nidi Maneskin.
Io c'ho vent'anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo vent'anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà e andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. C'ho vent'anni e non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro, dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E anche se ho solo vent'anni dovrò correre. Sarai pronto per lottare oppure andrai e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà. C'hai vent'anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo vent'anni.
E nous revoilà sur Radio 100% Lycéen. Donc maintenant nous allons écouter Estelle et Malak. Allez-y, on vous écoute.
Ciao Melek, sono Estelle e ho 16 anni. Studio italiano da 2 anni con la prof Ferraro. Posso farti qualche domanda?
Certo, con piacere.
Perché sei venuta in Francia?
La prima volta che sono arrivata qui sono arrivata per gli studi, ma decisamente credo che il mio... Non è stata una scelta, perché ho dovuto seguire i miei genitori, che loro hanno seguito la loro famiglia. Quindi se sono qui è perché ho seguito i miei genitori.
Ok, e a che età?
Allora, io sono arrivata a 12 anni qui per la prima volta e così.
Mm-hmm. Qual è la tua città natale?
Allora, io sono nativa di Treviso, in provincia di Treviso, nel Veneto.
E come hai trovato la comunità francese? Accogliente, calorosa, fredda?
Allora, io quando ho capito che stavamo per partire in Francia, mi immaginavo una comunità molto fredda, molto, non direi antipatica, però molto fredda, molto distaccata dagli altri. E quando li ho visti per la prima volta mi sono resa conto che non era totalmente vero.
D'accordo. Lo stile di abbigliamento è diverso in Francia?
Molto diverso dagli italiani, perché gli italiani hanno, cioè, sono conosciuti comunque mondialmente per i bei vestiti, le belle marche. E invece qui stanno, molte persone sono molto sul comodo, tipo tute, giacconi, cose così, quindi...
Quali preferisci?
Ma chiaramente lo stile italiano, perché è indimenticabile, immarcabile.
Cosa c'è diverso tra il sistema scolastico francese e quello italiano?
Allora, quello francese è molto più pesante, nel senso che comincia alle 8 e finisce alle 18. E se dovevamo comparare questi due, io direi che quello italiano è molto meglio, nel senso che comincia alle 8 e finisce a mezzogiorno,
sì.
Molto più facile da vivere.
Cosa ti manca dell'Italia?
Allora, tante cose direi, per prima il cibo, i vestiti, le persone, la mentalità, ma soprattutto la mia famiglia, credo.
E qual è il tuo monumento preferito in Italia?
Il mio monumento preferito in Italia è un po' cliché, quindi il Colosseo a Roma. Quindi...
Ok. Qual è la tua specialità francese preferita?
Cibo? Il cibo o specialità... Sì?
Sì.
Guarda, io quando sono qui mangio tanto italiano, quindi non ho una specialità francese che mi piaccia.
E per finire, puoi dirmi qual è la tua canzone francese preferita?
La mia canzone francese preferita è... Non mi ricordo più. Beh, credo che adesso la passeranno alla radio, quindi...
Galfai, je pars.
Ascoltiamo la tua canzone.
Sì.
Grazie.
Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs. Je pars, car le ciel est bas et gris. Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris. Je pars, je m'envole vers le rire des enfants. Je pars, même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments. Je pars, j'ai déjà fait mes valises. Je pars, car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars, car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, y'aura ni promesse ni nouvelle. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon abyssinie, moi l'Arthur Rimbaud. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je veux juste un chapeau de paille, une plage et un transat. Oublier les charters, les aéroports dans lesquels on transite. Je veux des nuits douces au ciel étoilé, scruter la galaxie. S'il n'y a pas de laxisme, on bosse jusqu'à la cataplexie. Je veux manger du riz au curry et des mangues juteuses. Je veux pas de leur vache folle qui rit à la fièvre afteuse. Et puis soleil qui tannerait ma peau, luisante sous la pommade. Ici on m'appelle négro, y a pas de place pour nos pommades. Je veux que mes pommettes, mes zygomatiques s'échauffent toute l'année. L'ami, les choses qu'ils promettent d'être condamnés à glaner. Sur sample de guitare sèche, je veux des gens simples et des sourires. Ici c'est rare qu'on me supporte, qu'on ouvre les portes et les serrures. Je veux vivre sur des rythmiques, des mélopées, me libérer de mes chaînes car la culture m'a menotté. Hey, je veux que tu viennes, allez, rentre dans mon monde. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars,
pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres.
Embrassez-moi, je suis pour l'amour et la paix. Le 28 août à d'ici, j'ai fait le rêve de l'appel. La peine, ma vraie nature, je vis avec. Comme l'orphelin du monde, l'enfant seul le reste avec. Je vis dans ces rues tristes. Le matin hivernal, je suis enfermé dans l'enfer. Et pour moi, c'est infernal, amener la joie dans mes ténèbres. Apocalypse de mes tourments, j'ai l'impression d'être au tournant. Que les personnes autour me mentent. Venez mourir comme les vagues de la plage. Venez donc lire le vague à l'âme de mes pages. Les palmiers sont courbés comme des vieillards. Les bords de mer sont devenus de tristes dépotoirs. L'érosion a mis à nu les mornes à Rome. La piscine a condamné tous les chemins qui mènent à Rome. Ma musique s'exprime comme une saudade. Les notes et les mots se mettent debout comme des soldats.
Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour un rayon d'ombre. Viens retrouver Colomb, mon cœur mort sous les décombres.
Ouais, et vous êtes toujours sur Radio 100% Lycéen, et maintenant nous allons écouter Alice et Abderrahman. On vous écoute.
Ciao tutti, mi chiamo Alice, sono francese e oggi siamo con Abderrahman, un studente italiano. Ciao Abderrahman, come stai?
Sto bene, te?
Posso farti qualche domanda?
Sì, sì, certo.
Quando è arrivato in Francia?
Sono arrivato in Francia all'età di 14 anni. Sono venuto con tutta la mia famiglia, ci siamo trasferiti in Francia per motivi familiari, perché mio padre ha trovato un lavoro più adatto a lui qui in Francia e anche perché ci avevamo anche un po' di famiglia.
Sì, qual è la tua città di origine?
In Italia abitavo a Anguillara Veneta, un piccolo villaggio in provincia di Padova, un villaggio di circa 5.000 abitanti. Era un villaggio molto dinamico, molto attivo. C'erano molti, molti eventi, molte feste, quindi era un villaggio piuttosto bello.
Bene. Sapevi parlare francese prima di venire in Francia?
Sì, perché in Italia avevo fatto 2 anni di media, nelle quali ho studiato il francese, e anche perché in Marocco ho fatto 1 anno della quarta elementare, dove ho studiato il francese anche lì.
Che pensi della scuola francese?
Allora, la scuola francese è un po' duro, perché si studia anche al pomeriggio. Non ci abbiamo tempo per studiare, per fare le nostre attività. Per esempio, per me il giovedì faccio calcio, e il giovedì finisco scuola alle 5.45 e c'ho calcio alle 7, quindi Non c'ho tempo per studiare e per andare.
Sono d'accordo. Non trovi la riforma del liceo un po' complicata?
Il liceo preferisco quello francese, perché ci sono 2 anni in meno in quello in Italia. Quello in Italia è 5 anni, quindi è un po' lungo per arrivare alla fine dell'esame, e quindi come dire che si accumulano molti, molti studi per poi per l'esame.
Hai una canzone francese preferita?
Canzone francese preferita, Calage Criminel Sal.
E un programma televisivo francese preferito?
Uno a caso, perché non guardo tanto, Koh-Lanta.
O italiano?
Italiano, Avanti un altro, un... ci sono delle persone che vengono da tutta Italia che partecipano a delle domande, a un quiz. Devono rispondere bene per poi vincere più soldi possibile.
Cosa ti manca dell'Italia?
Allora, dell'Italia mi manca un po' tutto. Gli amici, il mangiare, il calcio, le attività che facevamo. Perché si può dire anche che in Francia non ci avevano le stesse abitudini in Italia. non c'è tanto contatto con gli amici in Francia, invece in Italia si esce di più e si è più liberi.
Grazie Adelaman, merci pour avoir répondu.
Merci, merci.
Maintenant, Apité de Gali.
I miei sogni sono lì con la Brandon Lee. Non morirò sul set come Brandon Lee. Il mio cuore non brucia mai come jeans. Scappo adesso risi gialli come Kill Bill. Voglio un picnic, fa culo Justin. Timberlake con Bieber, l'importante è che sei Justin. Non guardarmi così, I'm a rich bitch. Ti interrompo la festa come un pezzo di Blitz. Yeah, give me five, perché il mondo è bello. Non capisco se è un casello o un McDrive. Baci, baci, bye, con la tua gang mai. Se mi stai lontano è meglio tu e le tue bad vibe. I miei fratelli fumano come se fosse sport. A te non ti vediamo perché c'è troppo smog. Guarda che noi non chiediamo, siamo peace and love. Il flow ti travolta, baby, come George. Tiriamo forti, ci crediamo a San Siro. Gasso, porifero e reclamo al condominio. Se arrivano le guardie, noi giochiamo a nascondino. Sono pronto a prenderle, scegli il classico alternativo. Ho gli occhi addosso come Mona Lisa. Mia mamma conosce tua madre, non sei mia cugina. La pensilina dice che ne arrivo e non arriva. Nel mio quartiere non funziona la tua hit estiva.
Io non vado a dormire prima delle tre. Poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov'è. E non vengo alla tua festa, no, non è un granché. Tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nera. Io con la tua gang, nah, non foto. Non distrarmi, sto guardando il vuoto. Scendi alla prossima, no, quella dopo.
Più sugo, più sugo, più sugo. Ho un amico, insomma, no, bro. Sta chiuso in casa, il caso è chiuso. In questa foto sei un intruso. Ciao bella, io ti conosco, tu fumi cannella. Mandala, mandala, manda Mandela. Cinque in condotta e brucio la pagella. Happy day. Faccio come un'era solo con i miei. Mi disp, non ti risp, stai sul display. Tienimi il volante e sparo a questi fake. Non fare mai sentire le tue chicche, no. Non cambiare mai, mai per due feedback, no. Ti mando a casa poi diventi triste, Tu mi mandi a casa solamente pizze, Il disco esce a giorni e non ho scritto un Spacchi solo quando te ne sbatti. O che lo devo mettere, mi sei su. Come chi applaude all'atterraggio.
Io non vado a dormire prima delle tre. Poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov'è. E non vengo alla tua festa, no, non è un granché. Tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nera.
Ancora, 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 ancora.
Ouais, et nous revoilà sur Radio 100% Lycéen. Alors maintenant, je vais interroger Maria Chiara. Bonjour Maria Chiara.
Buongiorno.
Allora, volevo sapere com'è stato il tuo trasferimento qui in Francia. È stato complicato?
Allora, sinceramente me l'aspettavo molto più complicato. È stato abbastanza semplice, anche perché quando sono partita ero abbastanza piccola, quindi ho detto togliermi direttamente dalla città in cui ho vissuto da sempre. Ho detto, sarebbe impossibile rifarmi una vita. Invece è stato abbastanza semplice.
Sì, ok, va bene. E com'è la vita qui in Francia? Le persone, il cibo, i paesaggi, tutte queste cose ti piacciono?
Allora, a dire la verità sono partita con un'idea in testa, cioè la società francese era la classe società chiusa, con una mentalità completamente diversa d'Italia, molto fredda. Invece è stato il risultato abbastanza accogliente, mi sono trovata molto bene. Per quanto riguarda il cibo, ovviamente il cibo italiano non si batte, cioè. E per i paesaggi invece, se parliamo di Orléans, non è che ci sta così tanto da vedere sinceramente, però in giro in Francia ci sono veramente dei paesaggi mozzafiato.
Sì, è vero. E visto che siamo in periodo di Covid, allora come organizzi la tua giornata durante questo periodo di lockdown?
Allora, questo periodo di lockdown sinceramente mi ha dato un po' di tempo in più per studiare, perché come hanno detto anche gli altri, il sistema francese finendo tardi non abbiamo molto tempo, quindi mi ha permesso di organizzarmi nello studio e per il resto questo, poi mi ha permesso anche di stare più a contatto con la mia famiglia perché sì. Sto andando a scuola.
Ok, e al di fuori della scuola sei riuscita a mantenere i contatti con le tue amiche?
Sì, se parliamo delle mie amicizie qui, sì, comunque riesco a mantenere il contatto, comunque il weekend non si va a scuola, quindi si può uscire più o meno prima, ora no?
Sì, prima.
E invece sono riuscita anche a mantenere il contatto con i miei amici in Italia, che è molto importante per me.
Sì, è vero. E in tempi normali pratichi qualche sport e riesci a praticare adesso?
Allora, sinceramente io con lo sport, da quando sono venuta qui, veramente ho smesso di fare qualsiasi sport, però devo dire che il lockdown mi ha aiutato perché mi sono rimessa un po', almeno ho detto sì. Con la scusa che sto a casa che non faccio niente.
È vero, vabbè. E un'ultima domanda, volevo sapere che canzone vorresti farci ascoltare e che ti piace?
Allora, vorrei farmi ascoltare una canzone del mio gruppo, uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, I Pinguini Tattici Nucleari.
Ok.
Bohemian.
Ok, vabbè, non c'è problema. Allora lanciamo la musica Pinguini Tattici Nucleari di Bohemian. Andiamo.
Pioggia scende sopra i rider di Deliveroo. Torno da te seguendo il profumo di ragù. Milano è un gran bell'ideale da inseguire. Un sogno che fa solo chi non riesce mai a dormire. Novembre mi ha soffiato il freddo nelle ossa. La nostra foto più carina è quella mossa. M'hai detto guarda sembra quella di due anni. A me pare di no, ma vabbè già lo so che vuoi averla sempre vinta tu. Sì. Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale, invece noi niente, penseranno che sono il Grinch. La vecchia che ci abita accanto ieri è venuta a chiedere sale, mi ha domandato quando facciamo un figlio che è Grinch. E mia mamma mi ha detto che sono troppo bohemian. Sono così, lo devo solamente a te. La convivenza ti spaventa, è roba nuova. Meglio andar lenti come insegna via Palmanova.
Et nous revoilà sur Radio 100% Lycéen. Alors, nous allons t'écouter, Estelle. Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Grâce à vos réponses, j'ai l'impression qu'en globalité, vous vous plaisez plutôt bien dans notre lycée en France à Charles Péguy. Nous sommes ravis d'avoir passé avec nos auditeurs ces 30 dernières minutes en compagnie de trois élèves italiens, Maria Chiara, Melek et Abderrahman. Je laisse place à présent à la prochaine émission qui traitera des violences policières ainsi que du racisme. Et tout de suite, quid d'Eddy de Préto sur la radio 100% lycéen.
Merci à vous tous de votre participation. À une prochaine. Au revoir.
Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille.
sera viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive.
Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.